Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Réussir sa vie, c'est trouver sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, il n'y a plus de fatigue. On est dans une zone d'harmonie, on fait du bien aux autres, les autres vous font du bien. On devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous. Amusez-vous à être curieux de ce monde. Il y a des trésors partout, c'est à vous de les voir. Et surtout, ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres. Quoi qu'il vous arrive, vous avez des outils pour vous en tirer.
Bernard Werber est dans l'émerveillement d'être vivant. Pour lui, il suffit de bien regarder le monde pour s'en délecter. C'est un peu comme des lunettes que l'on déciderait de porter ou non. On peut faire un trajet en train sans jamais regarder par la fenêtre. On rate alors le spectacle des églises, des vaches, des champs, de la neige. La vie, c'est un peu pareil. On peut la passer sans suffisamment regarder autour de nous pour voir le décor. Pour Bernard Werber, si on veut faire de notre vie un roman, il faudrait alors être observateur, attentif et à l'écoute. Arriver à l'être est le travail d'une vie, et en être conscient permet d'amorcer cette démarche dès le plus jeune âge. Finalement, il s'agit de regarder tout autour de nous avec un nouvel œil pour retrouver la curiosité en toute chose, surtout dans les plus banales. Bernard Werber est un raconteur d'histoires pour qui l'écriture l'a sauvé. Avec plus de 30 millions de livres vendus à travers le monde, il est l'un des auteurs français les plus lus et il nous aide à cultiver cette curiosité. Ne pas stagner et être dans une dynamique de mouvement, c'est peut-être le message fort que j'ai retenu de ma rencontre avec lui. Le cerveau est un muscle qui s'use si on ne s'en sert pas. Si on le nourrit, il va rentrer dans une dynamique de joie et plus on le sollicite, plus il sera heureux. Avec Bernard Werber, on parle de courage, de curiosité et de quête de sens. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de regarder par la fenêtre du train.
Allons-y, 1, 2, 3, ça
démarre. C'est parti. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Merci de m'accorder ce précieux temps dans tes bureaux à Paris.
Oui.
Tu es auteur de science-fiction, notamment connu pour ta trilogie sur les fourmis. Tu es aussi réalisateur, peintre et journaliste, du moins tu l'as été. Petit, tu passais des heures dans la nature à observer les fourmis. Quel était ton rapport au monde quand tu étais enfant? Comment tu te sentais?
Ah, mon rapport au monde... Je crois que je me suis toujours senti étranger à cette planète. Du coup, pour moi, tout ce que j'ai vu m'a semblé source et d'émerveillement et d'apprentissage. Je crois que très vite, j'ai un rapport distancé. Et c'est dans les livres et dans l'écriture que je me sentais à ma place. Et tout ce qui est vie normale me semblait décalé, bizarre, ou en tout cas des endroits où je ne pouvais pas m'épanouir. Je m'épanouis, c'est déjà dans la lecture et dans l'écriture, le reste me semblant faux, comme si j'étais dans un jeu vidéo ou en train de visiter une autre planète.
Et quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur le sens de la vie?
Au moment de ma naissance, je me suis dit, pourquoi toutes ces lumières?
très tôt.
Et il fait froid. C'est probablement, enfin j'en suis pas sûr, mais c'est probablement les deux idées que j'ai dû avoir. Et puis après, quand la vue est arrivée, j'ai dû me dire, c'est qui tous ces gens? Vers, je pense, 3-4 ans, j'ai dû comprendre ce qu'était la mort. Et après, à 8 ans, je me suis dit que toutes les réponses étaient dans la nature et qu'il suffisait d'observer la nature pour comprendre ce qu'on faisait chacun de nous ici.
Et je crois qu'à 13 ans, tu as basculé dans une autre façon de voir la vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quels ont été ces éléments déclencheurs?
Ça a été la rencontre en colonie de vacances avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani, qui était un surdoué du yoga. Enfin, lui disait surdoué du yoga, je pense qu'il était surdoué en tout. Mais il m'a appris à faire la méditation, à faire rentrer mon ventre, à respirer en conscience, à faire tout en conscience, à manger en conscience, à être calme, à être encore plus détaché que je ne l'étais. Il disait que c'était le Raja Yoga, mais j'ai vu plein de clubs de Raja Yoga qui faisaient pas le dixième de ce qu'il faisait. Donc c'est comme si j'avais rencontré un grand sage à 13 ans et qui m'avait indiqué la voie pour tout le reste de ma vie.
Mmh.
Et j'en parle dans Mémoire d'une fourmi, c'est cette rencontre qui m'a donné envie d'écrire Les Thanatonautes et l'Empire des Anges notamment.
Mmh. Et alors à 20 ans, comment tu imaginais la vie des grands ?
Des grands ?
Mmh. La vie des adultes.
C'est plutôt à 7-8 ans que je me posais question sur la vie des grands. Non, à 20 ans, je considérais que j'étais arrivé à ma phase de maturité.
Comment tu te projetais dans le futur ?
Je voulais juste un métier où je gagne ma vie. Et accessoirement, je voulais un métier... Bon, à 20 ans, j'avais déjà créé un petit journal, donc à 16 ans. Donc, je rêvais d'être journaliste, point barre. À 16 ans, je rêvais d'être avocat. Mais quand je suis devenu juste pour la tranquillité du métier, parce qu'on m'avait dit que c'était honorable. Après, quand j'ai fait le journal, je voulais être journaliste parce que ça m'amusait. Et c'est après avoir été journaliste que j'ai compris que journaliste, c'était pas ma voie et qu'il fallait que je sois écrivain.
Nouvel observateur.
Voilà.
Et donc oui, c'est quand tu t'ennuyais au lycée que tu as commencé à écrire un journal et que tu as eu le sentiment de trouver ta place, celle de raconter des histoires. Est-ce que tu considères que c'est à ce moment-là que ton...
C'est pas un journal intime, c'est un fanzine qui était publié, imprimé et vendu à l'entrée du lycée.
Est-ce que c'est ton début de parcours d'écrivain a commencé ici, finalement ?
En tout cas, le moment où j'ai commencé à créer quelque chose qui n'était pas lié à l'école. Tant que vous êtes à l'école, vous subissez le système. À la limite, mes créations avant, c'était des rédactions qui est libres qu'on me demandait en cours de français. Mmh. C'était mes créations. Mais j'avais pas créé le système. J'avais pas créé le système scolaire, ni, c'est pas moi qui décidais s'il y avait un sujet libre ou un sujet pas libre. Dès le moment où j'ai créé le journal, donc, vers 15 ans, je me suis retrouvé à décider ce qu'il y avait publié dans le journal, à décider la forme, le fond, à décider qu'il y aurait beaucoup de bandes dessinées et chercher de fabriquer des bandes dessinées avec des parfums. Donc, on avait mis au point avec mes 3 ou 4 amis avec qui on travaillait sur le journal des bandes dessinées musicales. C'est-à-dire, il y en a un qui dessinait et moi je faisais les scénarios et je fabriquais les parfums. Et après, on imprimait ça et c'est le moment où tout d'un coup, je me suis dit, je ne subis pas le système, j'ai inventé mon propre système et du coup, je commence à être libre et heureux.
Enfant, tu étais plutôt peureux et à chaque fois qu'il y avait un choix à faire, tu disais j'y vais pas et tu étais souvent dans le j'y vais pas. À quel moment tu as basculé dans le j'y vais ?
Ah ! Il y a encore des zones où j'y vais pas. Hein. Mais disons que c'est un curseur, c'est-à-dire il n'y a pas peureux de tout, il n'y a pas courageux de tout. Il y a, disons que... Enfant, je ne me serais pas vu en train de faire du parapente.
Mmh.
Alors que quand on me l'a proposé, j'ai dit, donc je devais avoir 30 ans, j'ai dit oui, bien sûr. Là, on me propose de faire du parachutisme ce samedi. J'ai dit ok aussi. Ce qui est même. Je crois qu'il y a un moment, j'accepte de faire des choses qui m'inquiètent un peu en me disant au pire, ça me fera de la doc. Pour écrire une scène. C'est-à-dire, vu que je vais vivre une émotion forte, voire une émotion de peur, je préfère que mes personnages auront cette même émotion. Donc, il y a certaines choses que j'ai fait juste comme documentation pour écrire mes romans. Et la vie m'a amené à avoir des zones, j'allais dire, des zones d'inquiétude, mais je crois que j'ai eu les épreuves qui étaient à ma hauteur. J'ai jamais eu de gros pépins. Je me suis jamais retrouvé dans une guerre avec des bombes qui explosaient autour. Je me suis jamais retrouvé dans des situations. J'ai eu quelques moments de situations un peu périlleuses, mais c'était gérable. Tout le temps, ça a été gérable et ça m'a énormément inspiré. En tout cas, des situations pour mes personnages. Actuellement, je suis ni peureux ni pas peureux. Je suis dans. Je suis un être curieux. En fait, je crois que j'ai jamais cessé d'être curieux. Tiens, par exemple, une chose que je ne ferai pas, c'est Fort Boyard. Je regarde Fort Boyard, j'ai des amis qui le font. J'ai un de mes amis qui a mangé là-bas du piment qui lui a détruit l'estomac. Je me dis, si c'est pour passer à la télé, faire sourire les gens chez eux, c'est cher payé de se faire un ulcère à l'estomac. Donc voilà, donc moi ça me ferait peur de me retrouver dans une épreuve où on me dit, vous devez manger quelque chose qui risque de vous détruire l'estomac. De même que je n'aurais pas envie de me jeter du haut d'un ponton comme à Fort Boyard dans l'océan. Déjà que j'ai un peu le vertige, je vais pas m'amuser à faire ça. Mmh. C'est pas de la peur, c'est juste je me connais et je veux bien trouver des sources de documentation, mais je veux pas mettre ma vie en danger parce que j'ai tout simplement j'ai encore des livres à écrire et que je ne crois pas que j'ai spécialement une chance spécifique. J'ai autant de chances que les autres d'avoir un accident, d'avoir un ulcère à l'estomac ou de me planter en sautant du haut d'un plongeoir. Maintenant, j'ai pas envie d'aller vérifier. J'ai pas envie de faire la roulette russe, voilà. C'est pas de la peur. J'ai autre chose de plus important à faire que quelque chose juste pour me prouver que je suis courageux.
À quel moment tu t'es dit que écrire des romans serait le centre de ta vie?
Alors, c'est quand j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie avec cette activité. Quand j'ai publié Les Fourmis en 91, je croyais que être publié, enfin écrire un livre et être publié, c'était juste comme faire de la musique ou jouer au golf. C'est-à-dire, c'est une sorte de hobby, une activité parallèle en plus de son travail, mais que c'était pas vraiment sérieux. Et quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec, ce que je ne savais pas, je me suis dit, si on peut gagner sa vie avec, je veux bien mettre tous mes efforts pour faire le truc qui me plaît le plus. Comme peut-être les grands joueurs de golf ou les grands musiciens, à un moment, se sont dit, attends, mais je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et ça s'est fait naturellement. Donc le moment où je me suis dit qu'être écrivain c'était un métier et que j'avais envie de mettre toute mon énergie dedans, c'est la première fois où je me suis aperçu que ce que je gagnais en tant qu'écrivain était supérieur à ce que je gagnais en tant que chômeur, parce qu'à l'époque j'avais été licencié du Nouvel Observateur en tant que journaliste scientifique et donc j'étais au chômage depuis un an.
Et alors comment on fait de sa vie un roman?
Il suffit de regarder bien. Dans Mémoire d'une fourmi, ce que je dis c'est, c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et je ferai les mêmes choix, à ce petit détail près que je regarderai mieux. Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes dans un train, vous pouvez très bien faire un trajet dans le train sans jamais regarder par la fenêtre. Et du coup, vous ratez le spectacle des églises, des vaches, des champs, de la neige, et vous avez fait le même trajet. Là, j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment regardé par la vitre le décor autour. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est si vous voulez faire un film de votre vie, soyez plus observateur, soyez plus attentif et écoutez plus. Et je me dis tout le temps, je devrais écouter plus, je devrais regarder plus et je devrais être plus attentif. J'en suis convaincu, mais je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'observe pas assez? Est-ce que c'est les ruminations, les pensées par rapport au futur?
La fainéantise. On croit qu'on sait déjà quelque chose, donc on regarde pas, on se dit ah ouais je sais comment ça va faire. Quel intérêt de regarder une vache brouter, vous savez ce que c'est qu'une vache qui broute? Alors vous dites peut-être qu'en le regardant bien on va découvrir que c'est pas inintéressant. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la curiosité. Il y a des gens qui sont pas curieux, il y a des gens qui croient qu'ils ont tout compris, qui sont remplis de certitudes et qui ne font que répéter des schémas qui les rassurent, et ces gens-là je pense ratent quelque chose. En fait, faut cultiver son âme d'enfant, et un enfant est naturellement curieux.
Depuis 2011, tu fais 50 minutes de sport tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas.
Si,
entre 18 et 19h.
Juste après cette interview.
Ah bah, incroyable. Entre 18 et 19h, si je me suis bien renseignée.
Ouais.
Et tu te lèves le matin en te disant « une journée de plus de gagner ». Pourquoi depuis 2011?
Parce que j'ai eu un contrôle... En fait, j'ai un ami qui m'a offert un contrôle de tout le corps et qu'on s'est aperçu que j'avais un bouchon dans le cœur. Et que donc je risquais de mourir à n'importe quel moment. Donc à partir de là, il m'a dit, je te déconseille de faire l'opération parce que c'est une opération qui va te donner un coup de vieux très rapidement. Et il m'a dit, si tu fais pas l'opération, je te conseille de faire tous les jours 50 minutes de cardio training, c'est-à-dire de mettre de la pression dans les tuyaux du corps pour que précisément ce bouchon soit poussé par la pression, un peu comme en plomberie. Il y a quelque chose qui bouche, mais si en mettant du liquide avec beaucoup de puissance, ça peut malgré tout pas l'enlever, mais en tout cas faire que le liquide passe. Donc je vis avec en effet la joie d'être vivant un jour de plus et le devoir de faire 50 minutes de sport tous les jours.
C'est beau. Tu dis le but de votre vie est de savoir qui vous êtes. Comment on apprend qui l'on est?
Là, si tu fais cette émission avec moi, c'est parce que tu es toi-même dans cette même recherche. C'est-à-dire tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui dans mon texte résonne avec par rapport à ce que tu fais toi. La meilleure manière de savoir qui on est, c'est de rencontrer les autres. De rencontrer les autres et de sentir qu'est-ce qu'on a de différent et de similaire. Et à partir de ça, de voir comment les autres, avec des problèmes similaires aux nôtres, ont trouvé des solutions différentes. Une vie ne suffit pas pour comprendre qui on est, mais l'écriture aide beaucoup, et notamment le fait de tenir un journal dans lequel on raconte tous les jours ce qu'on ressent. Je ne sais pas, est-ce que tu tiens un journal ?
Oui, et voilà. J'écris tous les jours, et j'ai écrit un livre d'ailleurs qui a été publié en septembre. L'écriture m'a aidé à grandir, donc ça me parle beaucoup.
L'écriture permet aussi d'éviter la psychanalyse, parce que quand vous écrivez et que vous faites un livre que les gens vont plus payer pour lire, quelque part, le seul fait de savoir qu'ils vont écouter votre vie, ça rend l'acte de nettoyage de sa vie actif. En fait, je pense qu'un journal de bord bien tenu remplace une psychanalyse. Ça va faire dresser les cheveux de tous les psychanalystes. Mais beaucoup de psychanalystes que j'ai rencontrés, et notamment les freudiens, se contentaient de faire « ah oui, d'accord ». Donc pour faire ça, franchement, une feuille de papier sur laquelle on raconte sa vie, il suffit de mettre de temps en temps
et on le fait soi-même.
Ça le fait aussi bien et c'est moins cher. Donc dernière fois que j'ai vu un psychanalyste, c'était pas pour moi, mais c'était pour un de mes enfants, et il a vraiment dit pendant à peu près trois quarts d'heure et après j'ai dit, parce que j'étais à côté, là, j'ai dit alors vous en pensez quoi? Il me dit ah non, c'est trop tôt, il faut revenir la semaine prochaine pour que le truc avance. Je dis donc globalement vous me dites rien, et il m'a dit non mais c'est sur le long terme. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenir un journal dans lequel on dialogue avec soi-même. C'est pareil, ça coûte moins cher.
Et donc, tu continues à écrire un journal de bord tous les jours ?
Oui, je continue à noter tout ce qui m'arrive, qui me semble instructif. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et est-ce que tu les relis au fil des années ?
Alors, je les relis... Donc, c'est un fichier. Hein. Je les relis parfois par mots-clés. J'essaie de trouver tous les moments où il s'est passé tel type d'événement pour pouvoir comparer, par exemple. C'est pas qu'un texte long, série. Il y a un système où je mets ce qui va et ce qui va pas. Donc, quand je peux voir, par exemple, tout ce qui va, enfin, toutes les choses agréables ou plaisantes qui me sont arrivées, toutes les choses désagréables ou déplaisantes qui me sont arrivées. Je peux faire aussi tout ce qui est arrivé dans tel endroit, tout ce qui est arrivé avec telle personne. Donc, je peux faire des recherches grâce au système des traitements de texte. Je peux faire des recherches centrées sur des thèmes.
Ça permet de se rendre compte de l'évolution aussi.
Voilà.
Quel regard tu portes sur la société d'aujourd'hui ?
Moi, je la trouve formidable. D'abord, je trouve que le monde est de mieux en mieux, ce qui est vraiment la phrase que personne n'a envie d'entendre. Tout le monde considère la pollution, le changement climatique. Je crois quand même qu'on vit beaucoup mieux qu'avant. Le seul fait, vous êtes là à faire des blogs, c'est nouveau ça. C'est-à-dire que tout le monde peut arriver à être journaliste et fabriquer son propre média. J'aurais rêvé d'avoir ça dans ma jeunesse. Ça existe maintenant, ça n'existait pas avant. De même, par exemple, les réseaux sociaux permettent de gérer sa propre communication. Avant, vous êtes écrivain, vous avez envie de dire quelque chose, il faut attendre que quelqu'un vous invite, un journaliste vous invite, écoute ce que vous dites et encore le retransmettre. Maintenant, j'ai mon propre Instagram, j'ai mon propre Facebook. Quand j'ai envie de signaler quelque chose qui me semble intéressant ou dans lequel j'ai envie d'avoir l'avis des gens, je le fais moi-même. Donc, on maîtrise la communication, elle est plus libre, il y a plus d'infos, jamais il y a eu autant de connaissances accessibles. N'importe quel enfant de 15 ans peut avoir plus d'informations que Léonard de Vinci, tout simplement parce que il y a des outils de recherche, il y a Wikipédia qui permet de s'intéresser aussi bien à la biologie qu'à l'astronomie, qu'à l'histoire, qu'à l'art, et on a des outils extraordinaires. C'est une grande jouissance d'avoir accès à autant de connaissances aussi facilement.
Tu es pour les révolutions discrètes. Pourquoi ?
Parce que les révolutions violentes, spectaculaires, sont en général récupérées, c'est toujours par les mêmes. C'est-à-dire, c'est les cyniques avec des grandes gueules qui récupèrent les révolutions. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la révolution française, la révolution russe, la révolution cubaine. Au début, tout le monde a l'air sympa, la révolution chinoise. Et au final, non seulement c'est les cyniques à grande gueule, mais c'est parfois des totalitarismes qui aboutissent, qui terminent les révolutions, comme c'est le cas, par exemple, en Chine. La vie devait être plus facile avant la révolution chinoise qu'après. Et déjà, ils ont eu une révolution culturelle qui a fait 30 millions de morts. Ça montre bien quand même que dans le style révolution censée améliorer la vie des gens, ça se pose là.
Si tu devais changer une chose dans la société aujourd'hui, ça serait quoi ?
Ça serait la... Alors, c'est un sujet qui est hautement délicat et pas politiquement correct, mais c'est la régulation, l'autorégulation de l'espèce. Actuellement, nous sommes 8 milliards. Nous allons bientôt être 10 milliards. Ça veut dire que 10 milliards d'êtres humains qui ont des voitures, qui ont des télévisions et qui ont le droit, évidemment, d'avoir ça, et de la nourriture, et qui ont des jouets, et qui ont des réfrigérateurs, ben ça veut dire que c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de matières premières, de pétrole, de bois, tout ça transformé en objets, et d'animaux abattus, beaucoup de disparitions d'espèces sauvages. Il y a un moment, il faut se rappeler qu'on est une espèce parmi d'autres et qu'il n'y a pas de raison qu'on élimine toutes les autres espèces. Ou alors, on va être dans un monde terraformé avec du béton, du métal partout, et du plastique partout. Et je ne crois pas que c'est un avenir souhaitable, même pour nos petits-enfants. Par contre, si on arrive à s'autoréguler, c'est-à-dire à stabiliser la croissance démographique, on peut arriver à inventer un monde meilleur. Mais là, depuis la nuit des temps, le système d'autorégulation, c'est la guerre. C'est-à-dire que chaque fois que l'humanité rentre en excès, on arrive à un point où, paf, il y a quelqu'un qui décide la guerre, comme ça, ça relance la fabrication des armes, l'industrie, et il y a les virus. Voilà. Pour l'instant, c'est la guerre et les virus qui sont nos deux autorégulateurs. Mais si on s'autorégulait, on n'aurait plus besoin de la guerre et des virus, et à ce moment-là, ben, on pourrait être beaucoup plus serein, peut-être même vivre plus longtemps. Mais ça, c'est un problème parce que personne ne veut renoncer à la croissance démographique, parce que ça veut dire croissance des consommateurs, enfin, croissance de la consommation, et la consommation fait tourner l'industrie, et donc on sort l'argument, bah, si l'industrie ne tourne pas, c'est du chômage, si il y a le chômage, ça veut dire que le système politique ne fonctionne plus, et c'est cette peur en cascade qui fait qu'au final, on est en train de polluer l'air, détruire toutes les forêts, et puis détruire et épuiser toutes les ressources naturelles de la planète. Donc, il faudrait prendre le problème à sa base et penser autorégulation.
Et est-ce qu'on pourrait être dans ce modèle de société de consommation si on était moins nombreux ? Ou au contraire, est-ce qu'on pourrait être autant, mais en repensant nos modèles de société ?
Ben, on consommerait différemment, évidemment. Mais j'ai jamais vu aucun parti politique qui défende l'autorégulation de l'espèce. Même les écologistes ne sont pas pour ça. Ils sont plutôt surtout en France, ils sont dans les problèmes sociaux et politiques. Ils sont pas du tout dans une pensée globale de la survie de la planète. Et je le regrette. Moi, j'aimerais bien voir un parti politique qui dise, OK, il faudrait que de manière planétaire, et pas uniquement en France, évidemment, sinon ça marche pas, on décide de ralentir la croissance démographique maintenant que, grâce à la médecine, on sait que quand on fait 3 enfants, il va y avoir 3 enfants vivants. Avant, on faisait 5 enfants pour en avoir 3 de vivants. Mais maintenant, grâce à la médecine et les progrès, la plupart des êtres humains qui sont mis en gestation donnent des êtres humains vivants. Donc, on n'a pas tenu compte de ce nouvel élément. Et on a continué à faire des enfants comme s'il y avait encore de la mortalité infantile, alors qu'elle n'y est plus. Enfin, elle n'y est plus dans les pays occidentaux, mais elle a aussi fortement baissé dans les pays dits en voie de développement.
Et alors toi qui as beaucoup d'imagination et qui écris des romans, si tu devais écrire un roman sur la société de demain, à quoi elle ressemblerait ?
Pour moi, d'abord... Il y a deux romans. Il y a la société de demain qui va bien et la société de demain qui va pas. Alors, la société de demain qui va pas, bah, c'est juste la prolongation de tout ce qu'on fait actuellement. Même si je disais que c'est de mieux en mieux, il y a un moment où, à force de gaspiller et à force de consommer, on va rendre notre décor inviable. On n'y est pas encore. Pour l'instant, là, on parle, l'air est respirable et on arrive à trouver de l'eau potable facilement.
Mais pas partout,
en France. Si on continue, c'est arithmétique. On finira par avoir de l'eau payante, chère, et de l'air payant, de plus en plus cher lui aussi. Et ça, c'est quand même la cata. Maintenant, un décor où tout irait mieux, je pense que ça serait un monde dans lequel on quitterait les villes pour créer des sortes soit de villages, soit de communautés dans la nature. Donc il n'y aurait plus ces embouteillages de voitures, il n'y aurait plus cette pollution. Et on trouverait un système de type informatique dans lequel le télétravail serait la règle partout. Enfin, en tout cas, ça serait encore plus répandu. Et l'autre idée, c'est on développerait l'autarcie. C'est-à-dire que les gens cultiveraient leurs légumes, leurs fruits, feraient peut-être leur élevage de poules ou d'animaux domestiques pour pouvoir se nourrir, et dans lequel on une société dans laquelle on aurait notre propre électricité qu'on fabriquerait nous-mêmes, peut-être par les panneaux solaires, peut-être par d'autres techniques qui restent à découvrir. Mais en tout cas, on ne serait pas à ce point dépendant de l'industrie, de la consommation et de la politique. Des endroits où les gens seraient responsabilisés. C'est-à-dire, si vous voulez manger, ben, il faut planter et faire la récolte et travailler. Et si vous voulez... si vous voulez l'électricité, ben il faut réparer l'éolienne et il faut réparer, je sais pas, le système hydraulique qui est basé sur la rivière. Mais en tout cas, que les gens ne soient pas dépendants d'un système centralisé. Ce qui me semble catastrophique en France, c'est qu'on a peut-être du fait de Napoléon un système pyramidal avec un gouvernement, une administration et un mécanisme avec des impôts, avec la police, avec l'armée, et tout le monde est interdépendant, et quand il y a un problème, ça devient rapidement catastrophique, parce que il y a trop de hiérarchie, il y a trop de chefs, il y a trop de gens avec des pouvoirs, il faudrait responsabiliser le citoyen pour qu'il soit autonome. Voilà.
Et dans cette société que tu décris, est-ce qu'il y aurait plus de place pour la spiritualité?
Alors la spiritualité, pour chacun, elle est différente. Je crois que tous les gens n'arrivent pas sur Terre avec les mêmes envies et les mêmes appétits et les mêmes curiosités au niveau de la spiritualité. Il y a des gens pour qui le monde rationnel convient très bien et on peut pas leur imposer de s'intéresser à la spiritualité. Il y a des gens qui sont dans la religion, dans lequel il y a une sorte de prêt-à-penser, dans lequel tout le monde va répéter les mêmes phrases au même endroit avec le même prêtre et ça leur convient aussi. Et puis il y a des gens qui font une démarche spirituelle autonome, indépendante, de type méditation, de type je sais pas, hypnose, de type tout ce qui existe autour de la sophrologie, autour des méthodes pour respirer, pour manger différemment. Et chacun arrive à fonctionne à sa vitesse. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir de mieux dans le futur, ça serait qu'on apprenne à l'école, justement, tous les outils qui existent, afin que chacun, selon ses envies et selon son niveau d'évolution, trouve ce qui lui permettrait d'aller plus loin. Le fait d'apprendre, par exemple, à respirer, à dormir et à manger, me semble intéressant si on apprenait à faire ça bien à l'école. Je vois que beaucoup de gens ne savent pas manger, ils savent pas mastiquer, ils savent pas manger en conscience, ils mangent pour remplir leur corps de nourriture, ils ne savent pas les effets que ça a. Par exemple, j'ai vu au Japon, beaucoup d'enfants connaissent les aliments qui vont ensemble et leur effet sur le corps. Je crois que ça serait intéressant qu'on sache aussi, qu'on apprenne aux enfants rapidement qu'est-ce qui marche avec quel aliment, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui donne de la force, qu'est-ce qui donne des réserves de sucre lent, les sucres rapides, le cholestérol. Toutes ces choses-là devraient être apprises à l'école parce que c'est plus essentiel que savoir le nom des fleuves russes ou les grandes batailles de Napoléon.
Qu'est-ce que c'est réussir sa vie?
Réussir sa vie, c'est trouver sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, il n'y a plus de fatigue. On est dans une zone d'harmonie. On fait du bien aux autres, les autres vous font du bien. J'ai l'impression que j'ai réussi ma vie parce que le métier que je fais me permet de rentrer en interaction avec les lecteurs. Les lecteurs peuvent rentrer en interaction avec moi. Et j'ai l'impression que ce que je fais a du sens. Pareil, on devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous. Souvent, à l'école, on m'avait appris à chercher un métier où je gagne bien ma vie, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est trouver un métier dans lequel on est heureux, ou dans lequel on utilise sa folie pour devenir artiste, ou sa différence. Et là, à ce moment-là, tout devient plus simple. L'écriture me semble l'outil artistique le plus accessible et le plus répandu, qui réclame le moins de matériel, pour arriver à, comment dire, à gagner sa vie, mais aussi à s'exprimer, dans le sens de faire sortir la pression qu'on a à l'intérieur.
Et alors, dernière petite question, mis à part l'écriture, quel conseil tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
Soyez curieux, tout ce qu'il y a autour de vous est merveilleux. Il y a actuellement une telle diversité de stimuli, que ce soit la nature, que ce soit la rencontre avec les gens, que ce soit même les jeux informatiques ou les jeux genre Oculus d'immersion dans les mondes virtuels. Il y a tellement de moyens de nourrir son cerveau, il faut vraiment en profiter. Le cerveau est un muscle qui ne s'use que si on s'en sert pas. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, si vous réfléchissez pas, si vous n'aimez pas les énigmes, si vous n'aimez pas les jeux, si vous n'aimez pas sortir des sentiers battus, en fait, votre cerveau va progressivement rétrécir. Mais rétrécir dans le sens, il va être moins efficient. Parce qu'en taille, il va rester la même taille. Par contre, si vous le nourrissez tout le temps, d'abord, il va vous demander de plus en plus d'être nourri et ce qui va vous nourrir va vous profiter encore plus. Il va entrer dans une dynamique de joie. En fait, notre cerveau est comme un petit animal qui aime être sollicité. Plus on le sollicite, plus il est heureux. Donc, le conseil pour les générations à venir, amusez-vous à être curieux de ce monde. Il y a des trésors partout, c'est à vous de les voir. Et surtout, ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres ou vous ayez un sentiment d'injustice. Quoi qu'il vous arrive, vous avez les outils pour vous en tirer. À part les problèmes de santé ou les choses, ou les accidents graves, mais si dans une vie normale, sans incident, on a les outils pour s'en tirer. Il faut juste aborder le monde avec gratitude, curiosité et une dynamique de mouvement. C'est-à-dire, pas se dire, on veut pas stagner, on a envie de bouger.
C'est beau. Merci beaucoup, Bernard Werber, pour tous ces messages.
Merci de m'interviewer.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.